Radio Okapi.
Okapi service avec Jody Daniel Kachama. Okapi.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Okapi Service. Nous allons parler de la COP26. Que faire pour mettre fin à la déforestation en République démocratique du Congo? Depuis 2030, professeur Corneille Ewango est en ligne. Bonjour professeur.
Bonjour monsieur le journaliste.
Bienvenue dans
Radio Okapi.
Voilà, bienvenue dans cette émission qui s'intéresse à la déforestation, comment enrayer la déforestation d'ici 2030, tel que les participants, les pays se sont engagés à la COP26. Eh bien, nous allons en discuter tout à l'heure avec vous ainsi qu'avec d'autres intervenants. Vous avez des questions, des préoccupations par rapport à la déforestation, appelez déjà au 081 890 63 94. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net.
Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, heure de Kinshasa.
Bien, les forêts jouent un rôle essentiel dans la lutte contre le changement climatique en absorbant une partie importante des milliards de tonnes de gaz à effet de serre libérés chaque année dans l'atmosphère par les activités humaines. Alors à ce sujet, les dirigeants réunis du monde à Glasgow pour la COP26 ont pris l'engagement d'enrayer la déforestation d'ici 2030. Plus de 100 pays abritant 85% des forêts mondiales, dont la forêt boréale du Canada, la forêt amazonienne au Brésil et la forêt tropicale du bassin du Congo. Les forêts du bassin du Congo, par exemple, ont un taux de déboisement de 0,20% selon la FAO. Cela équivaut à la perte de 311 000 hectares par an. Alors, quels sont les mécanismes à mettre en place pour enrayer la déforestation en RDC d'ici 2030? Nous avons en ligne professeur Corneille Ewango, écologiste. Professeur, encore une fois, bonjour.
Merci beaucoup et bonjour.
Alors, c'est quoi la déforestation?
Merci, monsieur le journaliste. La déforestation, c'est la perte de forêts par des activités anthropiques, donc des activités humaines qui contribuent à la destruction. Et cette destruction amène à la perte de forêts, donc de superficie de forêts. Et ces activités anthropiques sont de divers ordres, mais surtout pour nous en RDC, c'est d'abord l'agriculture sur brûlis que nous pratiquons, qui contribue à près de 70% de la déforestation, donc de la perte de forêts en RDC. Et s'en suit alors aussi l'exploitation de bois, l'exploitation aussi bien industrielle qu'artisanale, sont des moteurs de déforestation en République démocratique du Congo.
Voilà, il y a l'agriculture et l'exploitation du bois. Il n'y a que ces deux activités-là qui causent la déforestation?
Ce sont les causes majeures, les activités majeures de la déforestation. Mais il y a une panoplie d'autres activités et qui contribuent à la perte des forêts. Il y a les incendies par le feu, et il y a aussi les incendies par les catastrophes naturelles, et la mort des arbres, mais ça c'est un recyclage naturel, donc que ça contribue à l'équilibre atmosphérique. Mais ce qui est néfaste et à déplorer, ce sont les activités anthropiques qui contribuent à la perte des grandes superficies de forêts que j'ai énumérées. Donc l'agriculture, surtout l'agriculture sur brûlis, itinérante sur brûlis, et l'exploitation sous toutes ses formes de bois. Donc l'exploitation aussi bien industrielle qu'artisanale. Et il y a le bois de chauffe et le charbon de bois qui, pour notre cas, sont même le moteur vraiment de la déforestation, le charbon de bois et le bois énergie.
Bien, aujourd'hui, les dirigeants du monde se sont engagés à la COP26 d'éliminer, d'enrayer la déforestation d'ici 2023. Alors, au niveau de notre pays, d'après vous, professeur, quel mécanisme mettre en place pour atteindre cet objectif?
Bon, d'abord je les félicite pour cette grande ambition, cette bravoure d'ambition qu'ils veulent enrayer la déforestation d'ici 2030. Donc c'est dans 9 ans.
Oui.
C'est vraiment très courageux. Bon, je me dis que ce sont des responsables politiques, des décideurs. Donc les moyens suivront en conséquence pour qu'on puisse enrayer la déforestation. Mais je pense, comme scientifique, comme aménagiste forestier, je pense que c'est une utopie. Donc, s'ils peuvent parler de mécanismes de réduire la déforestation, ralentir la déforestation, nous sommes d'accord, mais les moyens devront suivre en conséquence. Monsieur le journaliste, nulle part au monde, même aux États-Unis, même les pays développés de l'Europe, ils ne peuvent pas s'en passer du bois. Ils ne vont pas s'en passer du bois, pas seulement pour la menuiserie, l'ébénisterie, mais même pour l'énergie. Ils en consomment. Alors dire qu'on va ralentir et arrêter la déforestation, je trouve ça une utopie. Mais je pense que c'est que la solution, c'est l'alternative à apporter à la déforestation. C'est ce que nous crions chaque jour, comment faire pour réduire la déforestation, mais pas l'arrêter. Donc, s'ils veulent l'arrêter, je me dis, je vais vous poser la question. Vous êtes là au bureau et on est en train d'échanger. Je pense que vous avez un générateur qui vous alimente. Voilà le premier problème que nous avons, pas seulement au Congo, mais dans beaucoup de, peut-être dans tous les pays africains. C'est le problème de l'énergie. Je suis dans la ville de Kisangani. La ville est plongée dans le noir, ça fait près de 3 mois. Et la population crie, descend même dans la rue, mais c'est comme si ça tombait dans les oreilles de sourds. Alors, vous pensez que ces populations peuvent se nourrir comment? Comment ils peuvent cuisiner?
C'est avec le bois de chauffe, ils vont aller couper. Les gens vont couper du bois, et puis voilà.
Oui, effectivement. Donc, le bois de chauffe et le charbon de bois. Alors, pour un pays qui n'a que peut-être moins de 1% de capacité d'énergie pour ces villes, comment vous allez enrayer la déforestation en RDC? Alors que même dans les grandes villes, même la capitale n'a pas d'énergie. Donc, il faut mettre des mécanismes. Et le premier mécanisme, nous sommes en train de parler, de crier le réchauffement climatique, et l'alternative, c'est l'énergie renouvelable. Donc, si nous pouvons construire des centrales thermiques, mais qui sont des centrales de biomasse, alors il faut trouver cette biomasse. Et cette biomasse, c'est la forêt. Donc, je crois qu'il faut développer des alternatives, des énergies renouvelables et des énergies solaires, les énergies éoliennes, mais qui sont encore plus coûteuses, qui sont encore plus coûteuses que les pays qui n'ont pas assez de moyens. Les pays en développement auront difficile, parce que je ne le vois pas. Si je vois mon continent, l'Afrique, combien ont des énergies éoliennes et des plantes solaires qui peuvent alimenter des grandes villes, on ne les trouve pas. Donc voilà le premier problème qu'il y a, que c'est la consommation quotidienne et journalière de l'énergie pour les besoins les plus si élémentaires. Donc l'alimentation de ces populations-là qui n'ont pas de l'énergie. Ils vont recourir toujours au bois.
Mais professeur, on a... Oui, allez-y.
La deuxième alternative serait quoi? On ne va pas s'en passer du bois, mais on peut ralentir, on peut réduire la déforestation. Si l'Europe, qu'on accuse d'avoir coupé toutes ces forêts, mais l'Europe n'est pas une savane, l'Amérique n'est pas une savane, ils produisent des forêts, donc ils fabriquent des forêts. Comment ils le font? Donc ils maintiennent, hein? Ils font des plantations pour avoir des forêts. Donc c'est ce qui serait aussi chez nous. Donc l'Afrique tropicale, l'Afrique centrale, le bassin du Congo, quoique il a des superficies illimitées de forêts, mais il est en train de les ronger chaque jour. Mais sa superficie du bassin du Congo ne change pas, ça ne pousse pas dans les pays voisins. Donc ce que l'on devra faire, c'est cesser une exploitation abusive. Donc nous devons contribuer à maintenir nos forêts par le reboisement. Nous devons assurer la régénération pour que les espaces que nous déforestons aujourd'hui ou nous exploitons le bois d'œuvre aujourd'hui, nous puissions encore reboiser pour que 100 ans plus tard, nos enfants aient aussi du bois, aient aussi du charbon, aient aussi du bois énergie. Mais ça ne se fait pas comme ça. Dans tous les pays de l'Afrique centrale où je suis passé, où il y a la forêt, il n'y a pas un concessionnaire, je peux mettre ma main à couper, qui reboise après l'exploitation. Le concessionnaire industriel, je dis bien. Et dans mon pays, c'est encore pire. Je ne connais pas une seule concession qui est reboisée par l'exploitant ou par l'État lui-même.
Mais alors, il semble que ces concessionnaires payent. Il y a des taxes de reboisement qui payent à l'État, c'est à l'État congolais de le faire.
Oui, mais est-ce qu'il le fait? Donc, vous êtes bien journaliste, vous devez un peu aller demander, est-ce qu'il y a un mètre carré de concession forestière exploitée et qu'on a reboisée par cet État congolais? Alors, comment il va s'engager à enrayer la déforestation quand il n'arrive pas à les réduire, et quand il n'arrive pas à maintenir la forêt, quand il n'arrive pas à créer ou recréer la forêt? C'est ça le grand problème. Je l'ai toujours dit, si l'État, si les pays ne font pas confiance à leurs scientifiques pour des théories à développer, tout ce qui peut maintenir notre équilibre, qui peut contribuer à l'amélioration de nos conditions de vie, donc tous ces beaux discours-là vont rester à Glasgow.
Bien, on va accueillir Justin depuis Fungourmé. Bonjour.
Oui, bonjour monsieur le journaliste. Je dis bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
On vous écoute, Justin.
Oui, en tout cas, c'est assez la deuxième fois que je reviens à vos antennes pour intervenir à ce sujet. La fois passée, c'était avec madame Amanda sur le reboisement de Yangambi. Donc, c'est une tâche qui revient purement à l'État. De protéger les forêts et protéger les arbres. Qu'est-ce qui se passe? L'État va se mettre là où les gens vont abattre déjà les arbres, on fabrique des braises et il commence à collecter à ces gens-là qui ont déjà abîmé et lui prend quelques rançons. Et cet argent, il ne se dépasse pas pour reboiser encore, donc il les utilise à autre fin. Parfois même les taxes sans, et la perception sans taxes, ça entre directement dans des poches là des inconnus qui n'arrivent même pas à converger cet argent dans les trésors publics. Il y a deux choses qui se posent sur ces sujets. Il y a conserver le climat et conserver aussi la nature. Donc, protéger le climat et stabiliser le climat et conserver aussi la nature. S'il s'agissait de stabiliser le climat, ils ne font pas reboiser les arbres seulement pour le bois. On peut reboiser les arbres qui nous serviront, tels que les palmiers, les histoires là qu'on peut consommer aussi, et ça nous aide à stabiliser le climat, et ça nous aide aussi encore à d'autres fins. Mais si l'État ne met pas son idée vers là, en tout cas c'est catastrophe. La population telle qu'à Fungurume, là, pour trouver un arbre de 7 mètres, c'est très difficile. Donc il y a cafouillage en brousse pour trouver des braises. Il y a des gens qui construisent des maisons. Il faut cuire les briques. Donc on commence à abattre même les petits arbres qui sont en train de pousser. Donc c'est très très compliqué et très pertinent, comme nous sommes déjà dans un climat tropical sec qui est avoisinant du désert du Kalahari qui vient de l'Afrique du Sud, en passant par les Zambies, le Zimbabwe. Donc c'est le Congo qui est déjà attaqué. Si on ne tire pas l'attention, il y aura la perturbation de l'horaire de la pluie et les gens manqueront comment semer même les histoires
ouvrières.
Nous commencerons toujours à lorgner sur les histoires qui viennent ailleurs.
Merci Justin de Fungurume. Mais Madame Evelyne de Kananga, bonjour.
Bonjour Daniel, rebonjour parce que je reviens pour le
oui,
deuxième
oui,
sujet.
Oui, tout à fait.
Je crois ce que notre invité vient de dire est très capital. Enrayer la déforestation, chose impossible, Daniel, impossible. Parce que si vous dites que vous allez enrayer, cela veut dire que vous allez faire disparaître le paysan. Parce que la vie du paysan, c'est autour de la forêt, autour de sa brousse. Vous, vous allez changer la nature pour faire quoi? Non, non. La réduction de l'exploitation, là on peut comprendre, et non, supprimer catégoriquement la déforestation, ça n'a pas de sens. Je crois à ce niveau-là, on doit mettre du paquet pour pouvoir encourager les activités telles que le reboisement, partout où l'homme vit, il doit planter au moins 5 arbres, partout.
Là, à Kananga, dites-nous comment ça se passe à Kananga. Est-ce qu'il y a des initiatives dans ce sens-là, planter les arbres à travers la ville?
Oui, ça veut déjà commencer. Et nous sommes en train de le faire même. Là, la population est déjà sensibilisée. Vous plantez même deux manguiers dans leur parcelle. Dans chaque parcelle, on doit trouver au moins deux arbres. Au moins. Et au besoin, les arbres fruitiers, les arbres à chenilles. Là, sur les terrains à haut risque, là, on plante les acacias pour lutter contre les érosions. On doit vraiment encourager cela. Et le paquet qui sera mis à la disposition des pays concernés, moi, je crois qu'on va pouvoir appuyer suffisamment les paysans pour pouvoir réduire l'exploitation de la forêt, supprimer, arrêter. Non, ça ne sera pas possible. Ça ne sera pas possible parce que la vie de l'homme, c'est autour de ça. Jour et nuit. Et même si aujourd'hui, il y a l'électricité, on n'ira pas avec l'électricité dans les coins du pays, partout. Imaginez-vous, vous mettez un paysan aujourd'hui devant sa cuisinière. Il fera quoi? Vous allez ramasser un tas de cadavres au village, dans le monde paysan. Partout, vous aurez des cadavres à un grand nombre, parce qu'ils ne savent pas comment utiliser le fer électrique, ils ne savent pas comment utiliser la cuisinière, ils ne savent pas. Donc on doit y aller mollo, la sensibilisation, les faire comprendre, et l'homme doit vivre. Si aujourd'hui vous dites qu'on doit arrêter avec la déforestation, mais ici au Kasha par exemple, la vie c'est autour du maïs, c'est autour du manioc, c'est ça l'aliment de base, le haricot. Alors, vous allez demander aux paysans de ne pas pratiquer l'agriculture. Est-ce que ça va se concevoir? Non, non. On va réduire. Ils verront ce qu'ils peuvent faire, mais à moins, ça sera la réduction et non la suppression totale de la déforestation. Ça, je m'explique en faux.
Bien. Merci, Madame Evelyne. On va donner la parole à Docteur Innocent. Voilà. Docteur Innocent, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous nous appelez depuis Kamonia. Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui, la thématique vaut son présent d'or, mais il convient que nous puissions nous demander pourquoi il y a la déforestation. D'emblée, nous pouvons voir que si les gens arrivent à déboiser la forêt, c'est pour des raisons qui existent, des raisons bien connues. Soit, c'est parce que on peut avoir les bois, ou on veut avoir les bois pour la cuisine. Soit, on veut avoir du bois pour fabriquer les meubles. Ou soit que on a un souci, on est pauvre, on va vendre et on va avoir les moyens. Moi, personnellement, je pense que pour lutter contre la déforestation, d'abord, il faut qu'il y ait une réglementation. Une réglementation qui n'est pas théorique, qui doit être suivie. Par exemple, on a dit, ne faites pas ceci. Si on attrape quelqu'un qui l'a fait, on le poursuit, il est saisi à la justice. Mais ce n'est pas le seul élément. Il faut voir comment contourner alors les raisons qui amenaient les gens à déboiser. C'est comme par exemple, certains pays africains utilisent le gaz pour la cuisine. le Congo n'en est pas privé. Pourquoi ne pas exploiter cet aspect-là et permettre à diminuer, parce que ceux qui prennent, par exemple, pour la cuisine, ils peuvent se servir de gaz. Mais il faut voir aussi comment relever le social. Puisque quelqu'un se trouve en impossibilité, il va trouver que prendre le bois et puis vendre à ceux qui en ont besoin, ça peut lui fournir de l'argent. Alors si l'État lui-même joue sur le social, ça peut diminuer tant soit peu. Mais le tout basé sur la réglementation qui doit être suivie.
Bien, merci docteur Innocent. Professeur Corneille Wango, vous avez la parole.
Merci beaucoup. Je crois que j'appuie totalement, je suis d'accord avec mes co-débatteurs. Je l'ai dit déjà qu'il est impossible d'enrayer, mais on peut réduire et on peut stabiliser. Mais il faut des mécanismes, et tous mes co-débatteurs l'ont dit, il faut reboiser et il faut planter les arbres. Et en foresterie, nous disons un arbre coupé, il faut en remplacer 5. Parce que compter les mortalités, alors vous pouvez avoir la chance au moins 2 qui peuvent remplacer le pied coupé. Et les causes sont là. On ne déboise pas parce qu'on veut seulement détruire la forêt. Et comme vient de le dire mon co-débatteur de tout à l'heure, mon confrère de tout à l'heure, quelles sont les causes? Est-ce qu'on attaque ces causes? Il faut qu'on s'attaque aux causes pour guérir la maladie. Et les causes sont profondes que sans énergie, nous ne pouvons rien. Nous n'allons pas enrayer, nous n'allons même pas stabiliser tant que nous n'avons pas résolu le problème. Si nous, en ville, nous souffrons du problème d'accès à l'énergie, alors comptez à plus forte raison les communautés, les populations les rurales. Mmh. Ils n'ont que ça comme source d'énergie. Et ils ne peuvent pas trouver d'autres alternatives que ça. Même s'il y aura des biogaz, des biocarburants, et des énergies éoliennes ou quoi, mais ils n'ont pas de moyens, comme l'a dit le confrère. Le social s'en suit. Je ne vais pas mourir de faim pour aller payer de l'énergie de 30-40 dollars. C'est impossible. Il faut que je me nourrisse. Donc, c'est un peu ça, mais on doit, je crois, bien y penser à reboiser. Et le reboisement, c'est planter les forêts, créer des forêts, même là où il n'y en a pas, parce que nous en avons besoin. Je venais de faire un voyage sur les tourbières en passant par le Kwilu Kwango. Oui. Ce sont des zones savanicoles, mais il y a quand même des lambeaux de forêt. Mais je vis à passer une nuit dans un village, j'avais pitié des mamans et des jeunes filles qui vont déterrer les arbrisseaux, s'il vous plaît, pour avoir les racines des arbres, parce qu'il n'y en a plus. Il n'y a plus de forêt et les maisons sont même exposées. Je me disais comment ces gens supportent le soleil et rester toute la journée dans la maison, parce qu'il n'y a même pas les sapoutiers dans certains villages, même pas les mangiers.
Oui.
Donc je crois que l'État doit faire un effort de reboisement, et nous avons eu beaucoup et de bonnes écoles qui continuent à y être, de foresterie à travers le pays. Une sensibilisation des communautés, des populations, même en ville. Je suis à Kinshasa, quand vous voulez planter un arbre, Ayena Zamba Awa, il amène encore la forêt ici. Comme si en ville, on ne oui. doit pas avoir un arbre.
Professeur Ewango, il y a eu dernièrement un tollé par rapport à la levée du moratoire sur l'exploitation forestière en vigueur depuis 2002. Est-ce qu'on peut dire que cela va encore aussi favoriser le déboisement?
La déforestation? Les scientifiques réunis ont levé le ton pour ne pas vouloir laisser faire la levée du moratoire. Parce que la levée du moratoire, quand on n'a pas encore contrôlé l'exploitation forestière, on n'a pas contrôlé le déboisement, la déforestation, donc ça va augmenter, c'est clair, il n'y a pas de choix là-bas. Donc, si on ne sait pas encore gérer ce que nous avons et on ne sait pas réparer les dégâts que nous avons causés à ceux que nous avons exploités, vous voulez encore en rajouter et puis vous demandez des millions ou des milliards pour protéger la forêt de bassin du Congo. Quelle est cette forêt que vous allez protéger si vous déboisez? Quelle est cette forêt que vous allez protéger si vous levez les moratoires et vous attribuez des concessions forestières? Donc c'est ce que j'avais dit, on ne doit pas vouloir une chose et son contraire à la fois. il est clair à la lire où se pratique l'exploitation forestière dans notre pays, la levée du moratoire va augmenter, va aggraver la déforestation. Alors, nous, par ricochet, le gouvernement, le pays ne doit pas rêver à réduire ou moins encore à enrayer, comme ils ont applaudi à Glasgow, enrayer la déforestation.
Bien, merci professeur Corneille Ewango. Je rappelle que vous êtes écologiste. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Excellente journée et à la prochaine.
Merci beaucoup Radio Capi, et c'est à moi de vous remercier. Merci, merci. Et merci aussi à mes co-débatteurs.
Radio Capi vous accorde la parole en direct de Goma au Nord Kivu cette semaine. Quatre numéros de l'émission Parole aux auditeurs seront enregistrés ces mercredi 3 et jeudi 4 novembre de 10h à 12h30 heure de Goma dans l'amphithéâtre de l'Université catholique La Sapientia devant un grand public. Au menu, 5 mois après l'éruption volcanique, comment les déplacés de Nyiragongo se résilient-ils ? Quid de la réhabilitation du matériel de surveillance de l'observatoire volcanologique de Goma ? Quelle protection des civils par la MONUSCO pendant l'état de siège? Évaluation de l'état de siège dans la ville de Goma. Parole aux auditeurs en direct de Goma pour nous rapprocher davantage de nos auditeurs et internautes et leur accorder la parole.
Bien, nous parlons de la déforestation, comment mettre fin, enrayer la déforestation à RDC d'ici 2030. Nous avons en ligne le professeur Eustache Kidi-Kwadi, il est docteur en sciences de l'environnement. Professeur Eustache, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste.
Bienvenue dans cette émission. Professeur, pensez-vous qu'il est possible d'enrayer la déforestation d'ici 2030 en RDC?
Ce n'est pas facile. Quand on parle de la déforestation, il faut d'abord poser les questions. Quelles sont les causes même d'abord de la déforestation? Vous savez qu'il y a, la population. La population, surtout au niveau local, cette population, leur vie repose essentiellement sur notamment la forêt. Alors si aujourd'hui vous dites qu'il faut notamment railler, d'interdire à ces gens de ne pas couper des feuilles, c'est très compliqué. Le problème, c'est qu'il faut chercher à développer les stratégies. Il faut chercher de développer des stratégies et chercher à utiliser ce que nous appelons des activités alternatives pour réduire notamment la pression de la déforestation. Mmh. Mais si aujourd'hui, la population locale n'est pas occupée, vous ne voulez pas intéresser de ces gens, c'est très compliqué. Voir aussi les exploitations, notamment forestiers, les gens qui exploitent la forêt. Ils sont en train de couper les arbres et de couper notamment les différentes espèces sans en tenir compte notamment des soucis pour les générations futures. Donc, il est intéressant d'abord, quand nous disons déforestation, ce n'est pas dans la ville de Kinshasa ici. Il faut voir toutes les provinces de la République démocratique du Congo.
Professeur, quel état des lieux
ces étendues qui sont professeur. Qu'on est en train vraiment de couper notamment les arbres et à ce moment-là, intéresser la population locale pour voir qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à cela. Mais quant à dire que vous allez railler, c'est-à-dire, vous devez comprendre que les ressources naturelles, d'abord, sont au profit de la population, de l'homme. Et l'homme doit normalement utiliser, exploiter cela d'une manière rationnelle. Mais si vous dites qu'à ne pas couper, il faut poser la question, ces gens, ils doivent faire quoi? Donc, il faut collaborer. C'est le gouvernement congolais. Même si vous dites, vous parlez aujourd'hui de planter les arbres, quel type d'espèces que vous allez planter? De quelle espèce, quelle superficie et où? Au bout, par exemple, ici, 2023. Donc, il faut chercher des stratégies, qu'est-ce que vous pouvez faire pour qu'on fasse quelque chose et pour réduire notamment la déforestation, développer les activités qu'on appelle des activités alternatives. Ça serait intéressant. Il y en a.
Oui, on a suivi, la FAO a déclaré que le taux de déboisement dans les forêts du bassin du Congo est de 0,20%. Et cela équivaut à la perte des 300 000 hectares par an. C'est quand même énorme.
Oui. Oui, bien sûr. Bien sûr, ça c'est vrai. Les données sont là. Mais c'est la raison pour laquelle des endroits où la population est en train de couper les arbres, les espèces, il faut poser la question pourquoi la population entre dans la forêt. Ils ont les besoins. Il faut trouver des solutions par rapport à cette population, surtout la population locale. Et si vous développez des activités alternatives, ils vont réduire notamment et la pression sur les différents types de forêts.
Professeur
Mais
s'il n'y
a pas des activités alternatives, ça sera très très difficile. Ils vont toujours faire la pression.
Oui.
Vous n'allez pas dire aujourd'hui interdire aux gens de ne pas manger, de ne pas faire ceci. Ça, c'est autre chose. C'est bien de prendre des mesures, mais il faut tenir compte de la population locale.
Bien, on va accueillir Serge depuis Kindu et Justin Dounia de Walikale. Serge, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour aussi à notre invité du jour.
Quelle est votre question, Serge?
En tout cas, le sujet est tellement intéressant, d'autant plus que, dès que nous vivons encore sur cette terre, nous dépendons encore de la forêt. Par rapport aux thématiques du jour, pour que nous puissions avoir un peu de contribution face à la déforestation, écoutez, monsieur le journaliste, aussi longtemps que on n'arrive pas à faire un plan de gestion de la forêt, en tout cas, il y aura toujours le désordre des bois qui seront coupés partout en République démocratique du Congo. Et donc, dans ce sens-là, nous devons faire la gestion de la forêt dite aux coupes désordonnées des bois, et cela fera en sorte que nous puissions reboiser. Mais aussi, il fallait qu'il y ait l'encadrement des agriculteurs. Moi, je vous assure, j'ai cultivé un champ comme ça. J'ai laissé cette partie-là pour atteindre encore là où il y a encore des bois d'île, là sur l'état en Swahili Ngamba. On entend encore d'autres plats. Je laisse l'autre partie ici qui est en train de... Ben, je ne sais pas comment vous expliquer la distance facile. Je prends encore d'autres pas là où j'ai reboisé les bois abusivement. Je me mets moi-même en témoin d'autant plus que je suis témoin oculaire de
Vous avez coupé les bois, vous avez fait l'agriculture une partie et vous êtes allé encore couper les bois pour planter, pour faire l'agriculture là-bas.
Chercher un sol qui pourrait ainsi produire en gogo les oiseaux dont j'ai planté au niveau du champ. Alors, dans ce sens-là, au niveau, si on n'arrive pas à sensibiliser les agriculteurs, et donc, même si l'invité nous dit que vous coupez un arbre, il fallait planter
cinq autres arbres.
Il y a des arbres là, lorsque un arbre devait pousser, il fallait que ça parle au niveau des intestins d'un animal. Est-ce que vous pensez que c'est facile? C'est pas facile. Et donc, le gouvernement congolais puisse penser à ça, à soulager tant soit peu la condition de vie de la population. Et si seulement si la population est satisfaite, en tout cas, on ne passera pas à couper les bois abusivement. Là où l'électricité est là, les fonctionnaires de l'État sont bien, ils touchent bien leur salaire. Bon, nous pouvons protéger la forêt comme il se doit. Donc, là où nous sentons que la RDC est riche en forêt, bon, à quoi bon les protéger? Nous sommes en train de les utiliser pour que nous puissions faire vivre notre famille.
Merci Serge. Justin Dounia depuis Walikale. Bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes. Bonjour à tous les amis de la radio Sauti Rai à Moubi qui suivent cette émission à travers notre relais.
Bien, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport au déboisement?
Oui, je voulais juste avancer mon argument qui serait d'accompagner d'abord les idées déjà produites par mes co-débatteurs en rapport avec le déboisement. Parce que si le gouvernement peut juste nous dire que il faut freiner ou stopper directement les déboisements,
la déforestation,
la déforestation, ce serait un problème vraiment qui semblerait être impossible. Pourquoi? Parce que si nous essayons de faire une petite analyse, vous comprendrez avec moi que la majorité de la population congolaise reste dans des milieux ruraux. Et que dans des milieux ruraux, il n'y a pas d'abord d'énergie, il n'y a pas donc d'électricité. Et puis cette population, pour des besoins primaires, donc l'alimentation, il fallait préparer les aliments, mais aussi pour la construction. Il y a des maisons bâties en bois, il y a des maisons en pisé. Alors il faut utiliser les produits en provenance de la forêt.
Oui, mais Douni, on peut utiliser les bois et puis planter d'autres arbres. Pourquoi ça, on n'arrive pas à le faire?
Oui, c'est une question, vous savez, ça dépend de la culture d'une population à une autre. Et que dans des milieux ruraux, c'est ce que je voulais dire avant de chuter, l'État devait d'abord mettre en place un projet de sensibilisation de la population sur la matière de reboisement. Et lorsque la population sera bien instruite pour cette notion, là, ça pourrait aller. Mais dire que non, l'État commence directement par stopper la déforestation. De mon côté, je pense que c'est compliqué. Prenez par exemple la ville de Goma. La ville de Goma qui dans sa majorité, si on examine un peu la superficie, n'est pas électrifiée. Donc c'est une partie qui a du courant, le reste non. Même la ville dépend des milieux ruraux pour ce qui concerne le charbon. Il faut qu'il y ait la déforestation dans les milieux ruraux pour que la ville aussi puisse être alimentée, monsieur le journaliste. Deuxième volet, j'aurais parlé de la faim. Il y a des fonctionnaires de l'État qui sont dans des milieux ruraux, mais qui reçoivent des salaires dérisoires, que j'appelle même des monnaies de singes, où le salaire qu'ils reçoivent vient après 30 jours ou 40 jours, et qu'il dépendra beaucoup plus de la forêt pour qu'il puisse s'alimenter, aussi alimenter sa famille. Donc vous comprenez que beaucoup de choses ne vont pas. Il ne fallait pas que l'État puisse obtempérer, l'État puisse aller trop vite en besogne pour freiner la déforestation, mais aussi il fallait d'abord penser à la vie normale de sa population.
Bien, merci. Professeur Eustache, vous avez suivi, les auditeurs disent qu'il faut d'abord commencer par encadrer les agriculteurs qui coupent les arbres et qui recourent souvent à l'agriculture sur brûlis.
Exactement, ce qu'ils sont en train de proposer, c'est tout à fait correct. C'est-à-dire, ce qui est là, c'est quoi? Les utilisateurs, notamment des forêts, la plupart dans nos milieux ruraux, on doit d'abord les éduquer, on doit d'abord les mobiliser et les sensibiliser pour leur montrer, pour leur donner d'abord l'importance de la forêt. Pourquoi nous avons la forêt? Et lorsque la population sera en mesure de comprendre l'importance, c'est que nous bénéficions partant de la forêt, ils seront en mesure de voir ce qu'ils doivent faire. Mais le problème, c'est pas tout simplement à ce niveau-là. Nous devons pas, on dit, protéger, nous devons les conserver. Il y a des activités alternatives. Aujourd'hui, quand la population locale est en train de couper peut-être pour construire des maisons, on peut peut-être fabriquer, construire des maisons avec des briques à d'or. Des briques à d'or, il y a quand même des gens qui font ça, qui peuvent aider la population locale pour le faire. Et à ce moment-là, ils vont réduire notamment la pression pour aller couper peut-être. Et aussi, vous avez l'élevage. On peut chercher, il y a des animaux qu'on peut utiliser. Vous voyez que la population, chaque fois, entre dans la forêt, couper le bois, faire ceci, ils seront en mesure maintenant d'être juste de... Et il n'y aura pas de problème. Alors, si aujourd'hui, nous pensons dire que non, il faut arrêter la déforestation, tout ça, nous devons d'abord tout faire pour trouver des solutions, notamment de la population locale. Parce que cette population, ils ont besoin, ils doivent prélever les ressources. Mais au cas où la population locale, vous ne voulez pas l'État, le gouvernement congolais n'arrive pas à trouver des solutions, ils vont toujours faire pression, notamment à couper le bois et autres. Donc c'est un problème très délicat. Arrêter brusquement, c'est tout à fait difficile. C'est tout un processus. Il faut aller progressivement trouver des solutions par rapport à cela. Et aussi de conserver. Quand nous disons aujourd'hui qu'il faut conserver, qu'est-ce que nous devons conserver? Il y a la RDC, c'est vrai. Des poumons verts après le bassin, plutôt la forêt d'Amazonie. Mais le problème, c'est que ce n'est pas toutes les provinces de la RDC hébergent notamment la forêt. Il y a des provinces où vous voyez un couvert végétal important, mais nous pouvons peut-être aujourd'hui développer d'autres activités dans le cadre, par exemple, de reboisement.
Professeur, dans quelle partie du pays aujourd'hui, professeur Eustache,
oui.
Professeur, dans quelle partie du pays on a encore la forêt aujourd'hui?
Bon, la forêt, quand nous parlons d'abord de la forêt dans notre pays, d'abord, un, c'est la cuvée centrale. Vous voyez ce que nous parlons, cuvée centrale, c'est là où il y a la forêt. Si vous voyez au centre de notre pays, au nord, vous avez les savanes. Au sud également, vous avez les savanes. À l'est, vous avez des montagnes. Mais c'est la cuvée centrale congolaise. Si vous allez dans la province du Congo central, c'est vrai, il y a un massif forestier qui est dans la réserve du fait de Louki. Mais si vous êtes à bord des véhicules, de Kinshasa jusqu'à Kasangoulou, vous passez Kasangoulou, même peut-être à Matadi, allez là-bas. Il n'y a rien, il n'y a que des formations herbacées. Si vous allez également vers Bandung, vous allez voir à Congo, vous allez voir. Donc la forêt, c'est la cuvée centrale. La cuvée, c'est là où il y a la forêt. Et cette forêt, nous devons comprendre que non, comment nous devons l'utiliser pour qu'il n'y ait pas une forte pression. Les forêts, quand nous parlons des forêts, c'est un concept qui est général. Il y a des types de forêts. Il y a des galeries forestières, vous allez trouver tout au long des rivières. Mais d'une manière générale, nous parlons des forêts, je n'en disconviens pas. Mais ces forêts, nous devons les bien conserver pour les générations futures. Bien, le reboisement dont nous parlons ici, tout le monde, il faut reboiser autant de milliards d'espèces et tout comme ça, ça ne suffit pas. Il y a aussi d'autres espèces que nous pouvons utiliser dans le cadre de reboisement pour réduire la pression. Et si nous devons aller plus loin, aujourd'hui, combien plutôt des hectares qui ont été reboisés à des différentes provinces? on doit nous dire, par exemple, à certains gouverneurs de la ville, plutôt des différentes provinces, pour nous dire, voilà, dans ma province, il y a autant de hectares que je venais de reboiser. Et vous savez très bien qu'il y a certaines espèces, la germination n'est pas facile. Lorsque les graines tombent, pour que les graines germent facilement, ça doit passer dans le tube digestif. Et quand les animaux vont libérer, les graines vont germer facilement. Mais cet aspect aussi, il faut normalement tenir compte. Donc la nature elle-même connaît comment trouver des solutions. Mais nous ne pouvons pas aussi laisser dans ce statut-là. Nous devons reboiser. Il y a des étendues. Nous prenons le plateau de Bateke. Nous prenons le plateau de Bateke. Il n'y a que dominé par les savanes. On peut aller
oui,
là-bas.
Professeur, il y a eu à l'époque, il y avait des projets pour recréer la forêt, comme le projet Mampou, la forêt de Mampou, avec 8000 hectares d'acacia, c'est à 70 km de Kinshasa, avec 300 fermiers qui travaillaient. Bon, je ne sais pas si le projet existe toujours aujourd'hui. Pourquoi ne pas créer des projets dans ces sens-là?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Lorsqu'on parle créer, il y a une différence entre plantation et créer la forêt. Il y a beaucoup de projets dans notre pays, on parle de plantation. Quand vous prenez par exemple les acacias, ne sont pas des espèces locales. Vous n'allez pas aller dans nos forêts, vous trouvez les acacias. Non, ce sont les plantes qui ont été introduites. C'est comme les eucalyptus et autres. Mais ici, nous parlons de forêts, des espèces qui sont d'une manière naturelle. Vous entrez dans nos forêts, vous identifiez ces espèces. Exemple typique, quand on parle de boisement créé, voilà ce que nous avons fait au 16e quartier industriel à Limété. C'est ça qu'on appelle boisement urbain. Les espèces qui sont là, ce sont des espèces locales, à croissance rapide, lente et moyenne. C'est ça qu'on appelle le boisement qu'on peut créer. Mais le reste, vous allez trouver, vous plantez les acacias. Ça, c'est une plantation. Parce qu'au bout de ça, vous allez couper peut-être les pieds pour fabriquer peut-être, vous avez entre des guillemets les makala. Mais nous parlons de boisement. Nous devons récolter nos espèces locales. Vous préparez les pépinières et on commence à le faire comme nous avons fait, comme un échantillon typique au niveau du boulevard dans la ville de Kinshasa ici. Vous allez voir un petit tronçon là, au 16e rue quartier industriel. C'est ça qu'on appelle boisement urbain, typique. Mais on peut notamment faire vulgariser dans d'autres provinces, sans doute. On ne peut pas créer une forêt rien qu'avec les espèces exotiques. Ça n'a pas de sens. Je n'ai pas dit que toutes les espèces exotiques ne sont pas utiles. Non, il y a des espèces qui sont utiles, que nous pouvons encourager pour reboiser. Et nous voyons aussi ces espèces en question.
Bien, on va accueillir Jean-Claude Bouchiri de Kindou et Kachai de Kanyuka. Jean-Claude, bonjour.
Oui, bonjour Jody. Bonjour à tout le monde.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la lutte contre la déforestation?
Oui, Jody, moi je pense que d'entrée de jeu, nous devons dire que c'est une problématique qui doit être abordée avec une certaine pertinence. Moi qui vous parle, je suis le coordonnateur provincial de la Société civile environnementale et agro-rurale du Congo, Maniema. J'ai écrit à maintes reprises. Notre forêt est victime des agresseurs qui nous viennent de l'Est. Je parle du Sud Kivu et même du Rwanda. Je parle de la réserve de l'Ouam, où on est en train d'exploiter et de commercialiser le bois rouge, appelé Pterocarpus temperus. Ces gens viennent, ils coupent, ils parlent avec les ayants droit, les soi-disant ayants droit. Ils donnent 50 000 ou 30 000 francs, ils entrent dans la forêt et dévastent la forêt complètement, sans contrepartie. Les écoles sont là, sans des bancs, sans des portes et tout ça. À quelques kilomètres de Kindu, ici dans le Wakabango, c'est dans le territoire de Pang, et aussi dans le territoire de Kassongwamoun, on est en train d'observer impuissamment, avec ces mêmes gens qui nous viennent, avec des gros camions. Ils arrivent au niveau de la province ici, ils donnent peut-être 500 000 ou 400 000, ils descendent là avec l'impuissance des autorités locales. Je vais vous faire une anecdote. Il y a un chef de groupement qui a été mis aux arrêts parce que tout simplement, il a refusé à ces gens-là d'entrer dans sa forêt pour couper des arbres. Le dossier est ici et nous disons, si ce cas continue, nous allons constituer un parti civil pour mettre hors d'état de nuire. Parce que jusque-là, il y a des gens qui défient le chef de l'État. Nous avons ici entendu le chef de l'État avec son initiative très louable, 1 milliard d'arbres d'ici 2023, mais jusque-là, rien n'est mis au point. Quand vous partez vers les écoles, on vous dit non, nous, on n'a pas de moyens. Quand vous toquez ça et là, on vous dit non, bon, c'est quelque chose. Donc, on prend des histoires avec moindre importance. Voilà pourquoi nous le disons, c'est quelque chose, ça demande une mobilisation tous unis de la part de tous les partenaires pour bouter hors d'état de nuire. Parce qu'il y a même certaines autorités, je dis, les autorités de la place, je ne vais pas citer, qui donnent le tout, quand ils reçoivent les 300 000, les 400 000, ils voient que c'est la fin du monde pour aller autoriser ces gens qui viennent, sans tenir des conséquences de ce qui va arriver demain ou après demain, jeudi.
Bien, merci d'avoir appelé Jean-Claude de Bouchiri de Kindou. Kachai, vous êtes à Kanyuka. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody Daniel Kachama, et bonjour à l'invité.
On vous écoute, Kachai.
Merci beaucoup, monsieur Jody. Comme les prédécesseurs viennent de le dire, vous savez, dans nos milieux, les autochtones sont parfois en train de vendre des espaces forestiers à certains opérateurs économiques. Et ceux-là, quand ils achètent, ils commencent à couper en désordre et faire disparaître la forêt pour qu'ils exploitent cet espace-là à des fins privées. Alors, maintenant, si, par exemple, quelqu'un qui est économiquement fort vient solliciter quelque chose auprès de celui qui est économiquement faible, vous pensez que celui qui n'a pas l'argent ne pourra pas céder, il va céder. Alors, maintenant, l'invité lui dit que les agacias, ce n'est pas pour la forêt, mais c'est une plantation. Maintenant, je voulais au moins essayer de lui demander quel type d'arbre peut-on alors reboiser ou soit planter pour lutter contre la déforestation en RDC. Parce que c'est souvent ici, je vois, il y a même des ONG qui viennent à nous sensibiliser dans nos milieux. Il nous demande de planter surtout les agacias et consorts. Maintenant, lui dit que non, les agacias constituent seulement une plantation, mais ce n'est pas pour la forêt. Il peut alors nous citer quelques arbres, parce que ces arbres-là ne sont pas là où nous vivons. C'est ailleurs, toujours en brousse. Maintenant, où est-ce que nous pouvons aller trouver des boutures de ces arbres-là pour planter afin de lutter contre la déforestation? Troisièmement, c'est par rapport aux chefs coutumiers. Il y a certains chefs coutumiers, M. Jody, qui, lorsqu'ils n'ont pas l'argent, ils vendent des espaces forestiers. C'est pourquoi cette fois-là, j'avais encore essayé de demander à l'invité. Est-ce qu'il est permis à tout le monde de vendre des espaces, des forêts, sans au préalable avoir l'autorisation de telle ou telle autre autorité ayant la forêt dans ses attributions?
Merci,
voilà,
Kachai.
En quelque sorte, ce que je voulais aussi demander à l'invité.
Bien, Madira, depuis Arou, bonjour.
Oui, bonjour.
Quelle est votre préoccupation, Madira?
Ma préoccupation est celle-ci. L'orateur dit qu'il a fallu que la population ne puisse pas détruire la forêt. Alors que cette population qui vit dans la forêt vit rien que de ça. Les braises, ils trouvent là-bas. Les champs, là-bas. Même les champignons, ils trouvent là-bas. Si le gouvernement ne s'occupe pas de cette population, comment ils vont vivre? Ça allait être mieux que le gouvernement s'occupe d'abord de cette population avec les montants que les industriels donnent. Il a fallu qu'ils puissent quand même ouvrir des projets avec des sociétés qui l'ouvrent là-bas pour replanter peut-être d'autres forêts. À ce moment, cette population peut s'occuper de ce travail. Tant que le gouvernement ne s'occupe pas de cette population, la population n'acceptera pas ce que vous dites ici. Ça sera d'abord clairement la responsabilité des gouvernements qu'ils ne prennent pas seulement l'argent de ces industriels pour ces affaires, non. Qu'ils s'occupent de cette population-là. Par exemple, nous qui sommes ici à Roux, nous qui sommes ici dans nos villages propres, la population vit de ce qui nous appelons entre guillemets Makala. Alors, si vous dites qu'ils ne puissent pas préparer Makala pour aller vendre, vous aurez des problèmes avec cette population.
Mais on peut faire le Makala, mais tout en reboisant. On coupe, comme l'a dit l'un des invités.
Voilà.
Vous coupez un arbre, vous plantez cinq autres.
Voilà, on peut planter, mais ce n'est pas tout. Il faut que le gouvernement puisse s'occuper de cette population-là. C'est ça notre souhait.
D'accord, merci.
Nous sommes déjà dans le désert. Il a fallu des projets pareils arrivent aussi chez nous.
D'accord, arbre ou les déserts. Et les arbres sont...
Ça rapproche de nous.
D'accord, les arbres sont tout en coupé. Docteur qui passe à des Kikwita, bonjour.
Bonjour Jody, bonjour professeur et à tous ceux qui viennent d'intervenir là. Jody, juste une petite contribution et une question.
Oui.
J'étais à Vancouver il y a 4 ans. Et quand j'étais en train d'admirer les bois, les forêts que j'ai vues là-bas, les Canadiens qui étaient à côté de moi m'ont dit, docteur, c'est plutôt à nous à vous admirer parce que ce que vous avez comme richesse dans vos forêts là-bas, c'est scandaleux. Mais le grand problème, c'est la mentalité, et pas la mentalité de la population seulement, mais c'est avant tout la mentalité de responsable, de gouvernant de votre pays. Je m'explique. Le prof a dit tout à l'heure là que le gouvernement va dans des engagements, par exemple, comme ils reviennent de Glasgow. Et le prédécesseur a même dit ces discours vont rester à Glasgow. Ces discours-là, c'est pour tout le monde. Mais la manière d'appliquer ces discours font que, pour nous, en Afrique, les discours peuvent rester à Glasgow, on a eu une très bonne mission et c'est fini. Mais les autres en Europe, en Occident, ils vont utiliser ces discours. Qu'est-ce qui se passe chez nous? Est-ce qu'il existe une réglementation concernant la conservation non seulement des forêts, disons de la nature? Parce que je dis, vous arrivez aux États-Unis, vous coupez le bois, et non seulement le bois. Regardez, il y a quelqu'un qui a parlé du bois rouge. Nous avons dans nos forêts, je ne sais pas, toutes sortes de bois de couleur qui n'existent nulle part au monde, sauf en Amazonie. Mais pourquoi on n'applique pas la loi, si elle existe, sur la conservation de la nature, sur la façon de gérer les forêts? Et les députés, moi j'étais député, les députés qui m'entendent en ce moment, est-ce qu'ils peuvent pas proposer une loi pour voir, pour qu'on identifie les criminels de l'environnement? Je m'explique.
Docteur, on n'a plus beaucoup de temps, il nous reste presque 2 minutes.
Mais... Oui, je terminerai en disant ceci.
D'accord.
L'IGF peut nous aider parce que les députés peuvent rentrer et faire une prospective et regarder qui sont, ça c'est ce qu'on m'a dit au Canada, qui sont ces gens-là qui ont bouffé l'argent de reboisement, ces ministres-là qui ont bouffé,
il faut les arrêter.
Qui sont devenus riches. Il faut les arrêter.
D'accord.
Et puis,
Oui, oui, merci docteur Kikuit. Professeur Estache, on va conclure cette émission. Vous avez la parole.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste, avec d'autres amis qui viennent de passer. Il y a une question là que l'autre a posée. Il dit, mais finalement, où est-ce que nous allons trouver les espèces? Dans notre pays, nous avons plus de 11 000 espèces. 11 000 espèces. Et ces 11 000 espèces, c'est que nous avons, par exemple, l'échantillon que je venais de démontrer ici, que nous avons planté au 16e ressort des espèces locales. Il y a des semences, il faut récolter les semences et reboiser. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas utiliser les acacias. Les acacias, on peut les planter dans des endroits voulus. Là où peut-être des zones humides, tout qu'on sort, on peut les planter. Mais on ne peut pas constituer toute une forêt avec des acacias, ça n'a pas de sens. Là, ça devient une plantation. Parce que quand nous disons forêt, vous avez planté, nous avons les espèces que nous rencontrons dans la forêt, vous avez récolté, il faut utiliser les spécialistes en matière. C'est ça que nous devons tenir compte par rapport à cela. Donc, je pense bel et bien, ce n'est pas tard, c'est un sujet, une thématique très intéressante qui nécessite des réflexions par rapport à cela, mais je pense que nous devons tout faire pour que le gouvernement prend en charge par rapport à ses responsabilités, de voir qu'est-ce qu'il peut faire par rapport à cela et en concours avec des spécialistes en matière. Il y a identifié les acteurs qui sont clés, ils sont là. Les gens qui connaissent mieux quelles sont les espèces, ils vont récolter les semences, préparer les pépinières et ils vont reboiser sans doute. Les universités sont là, il faut les contacter.
Voilà, on a suivi docteur Kipas a dit qu'il faut arrêter tous les responsables qui détournent les fonds destiné au reboisement.
Pardon?
Vous avez suivi docteur Kipas a proposé qu'on arrête, par exemple, tous les responsables qui détournent les fonds destinés au reboisement, qui en font autre chose, peut-être commencer à arrêter ces criminels.
Bon, comme je n'ai pas vraiment de données par rapport à cela, je n'ai aucune information sur ça, mais je pense que l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, si aujourd'hui il y a eu des financements en matière, ou je ne sais pas, il faut normalement voir c'était quoi exactement. Mais sinon, le gouvernement doit travailler avec les ONG, avec la population locale et les autres pour voir ce qu'il peut faire. Moi, à mon avis, je n'ai pas vu quels sont ces fonds-là et c'était où. Je n'ai pas de données là-dessus.
Vous n'avez pas de données. Merci, professeur Eustache Kidikwa Ditango, docteur en sciences de l'environnement. Et c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission de La Vie au quotidien. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.
Merci beaucoup, à la prochaine.